Cube Radio.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon mardi. Écoutez, vous avez peut-être entendu à quelques reprises parler de ma peur des aiguilles que j'ai surmontée en allant me faire vacciner. Mais ça a été une expérience assez traumatisante pour moi parce que, ben écoutez, quand on a une phobie de quelque chose, là, c'est vraiment très, très difficile. Et depuis le début de la campagne de vaccination, c'est rempli dans les journaux, à la télé, évidemment pas à la radio, mais à la télé, dans les journaux, chaque fois qu'on parle de vaccination, on me met en pleine face une belle grosse image d'aiguille et à chaque fois, je suis obligée de détourner les yeux parce que, je vous le dis, c'est vraiment c'est une phobie. Là. C'est très débilitant, c'est très handicapant. Et là, j'ai appris qu'avec l'hypnose, on pouvait traiter cette crainte-là. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai poussé évidemment un bain, voyons donc, très enthousiaste. Mais surtout, je me suis dit que peut-être j'allais me faire traiter. Parce que vraiment, la peur des aiguilles quand on est en pleine campagne de vaccination, c'est pas drôle. Alors, ben voyons donc, je vais peut-être aller en hypnothérapie.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir, avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
On vit quand même une époque absurde, surréaliste. Il y a un variant du coronavirus qui est né en Inde. Et selon certains bien-pensants, des obsédés de la rectitude politique, c'est très vilain d'appeler ce variant qui vient d'Inde le variant indien. Pourtant, en Inde, dans les journaux indiens, quand on parle du variant qui vient de l'Inde, on l'appelle le variant indien. Mais ici au Canada, si t'appelles le variant qui vient de l'Inde le variant indien, tu te fais traiter de xénophobe, mesdames et messieurs. On va parler de tout ça avec mon ami et collègue Joseph Facal, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Joseph, George Orwell est peut-être pas en train de se retourner dans sa tombe, mais on a vraiment des fois l'impression de vivre en 1984 parce que les mots n'ont plus de sens. On ne peut plus appeler un variant qui vient de l'Inde un variant indien, parce que ça va faire de la pépène à Laura Julie Perrault de la presse.
Écoute, Sophie, si tu connais un mot plus fort que absurde, aide-moi. Parce que effectivement, on est au-delà de l'absurde. Et même Orwell, s'il revenait parmi nous et regardait ce qu'on vit, lui-même se dirait « Mon Dieu, j'ai grossièrement sous-estimé les dérapages. » S'il y a un autre pays plus capoté que l'absurdistan, nous y sommes. Tu sais, à la limite, oui. Qu'un chroniqueur ou une chroniqueuse de la presse ou de Radio-Canada disent ce qu'on est habitué de lire de leur part, bof, je m'y suis habitué. Là où, évidemment, ça devient un peu plus inquiétant, c'est lorsque des gens que je qualifierais de « abonnés au bon sens », comme François Legault, reprennent un peu cela en disant « attention, il faut faire attention de ne pas stigmatiser » et que le ministre de l'Immigration, oui, Benoît Charrette, lui ouais. aussi, un homme raisonnable, dit « il ne faut pas alimenter les préjugés ». Sophie, je m'excuse, quand un pays de 1,4 milliard d'habitants nous annonce 315 000 infections en 24 heures dans un pays où on sait évidemment que la comptabilité gouvernementale est, disons, douteuse, il faut bien parler de flambée. Il faut bien parler d'épidémie complètement hors de contrôle, comme au Brésil. Et là, il faut s'interdire de dire de quel pays ça vient. Alors, si ça continue comme ça, dans quelques jours, on va nous dire qu'il est interdit dorénavant de dire que le virus, l'an dernier, serait apparu dans un marché public en Chine, à Wuhan.
Non, mais c'est vers ça qu'on s'en va. Alors, pour ton information, j'ai pas réussi à trouver un mot plus fort que absurde. Par contre, j'ai fait une petite recherche pour trouver des synonymes de absurde. Donc, déraisonnable, inepte et insensé. Donc, c'est en effet absolument insensé. Évidemment, à travers tout ça, tu veux revenir aussi sur la une du Journal de Montréal, Journal de Québec, où on voyait donc Justin Trudeau au moment où il avait fait son voyage en Inde, où il s'était rien de moins que déguisé en Indien. Et donc, on voyait Justin Trudeau, et c'était marqué « Le variant indien débarque ici ». Monsieur Trudeau, Justin, allez-vous cette fois-ci vous tenir debout devant l'Inde ?» Ou quelque chose comme ça. Bon. Justin Trudeau était à Tout le monde en parle dimanche, et il a dit que selon lui, c'était une erreur de jugement. Mais je m'excuse, Joseph, mais me faire donner des leçons de jugement par quelqu'un qui a fait 3 fois le blackface, qui s'est déguisé de façon ridicule, qui a déguisé sa femme et ses enfants quand il est allé en voyage en Inde, qui a eu des problèmes de conflit d'intérêts avec l'Aga Khan, de conflit d'intérêts dans le dossier SNC-Lavalin, qui s'est fait taper 3 fois sur les doigts par le commissaire à l'éthique. Vous êtes très mal placé, M. Trudeau, pour venir nous donner des leçons de jugement.
Écoute, Sophie, la direction du journal est composée de grands garçons et de grandes filles qui sont capables de se défendre tout seuls. Mais là, vraiment, c'est le bout du bout. Tu as un homme politique qui se prend pour un mauvais acteur de théâtre, qui aime se déguiser. Se déguiser justement d'une manière qui accentue les stéréotypes.
Les stéréotypes, ben voilà.
Et qui est accusé de faire du stéréotype? Pas celui qui s'habille, mais celui qui lui rappelle le grotesque de ses déguisements. Franchement, écoute.
C'est là, le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers.
J'ai intitulé ma chronique « L'arme de crocodile ». Là encore, si tu as quelque chose de plus fort que ça, je suis preneur. Quel festival d'hypocrisie. Franchement, là. Franchement.
Non, mais en plus...
Continue, vas-y, je t'en prie.
Bon, ce que je voulais dire, c'est que il y a toute cette levée de boucliers. Il faut pas parler du variant indien. Il faudrait l'appeler le variant B.1.617. Il faudrait... Il y a même une chroniqueuse de la presse, encore elle, qui a dit, ben, au lieu de donner des noms d'origine géographique, on devrait faire comme on fait avec les ouragans, puis leur donner des prénoms. Écoute, c'est tellement stupide!
Non, mais le variant Ginette!
Le variant Ginette!
Karen, Sharon, Lydia, Vanessa, écoute, c'est complètement ridicule. En plus, Sophie, pense bien à ceci.
Excuse-moi.
On ne cesse depuis un an de nous dire qu'il faut avoir une approche scientifique de cette affaire-là, non passionnelle. Mais justement, c'est quoi la démarche scientifique? Quand les scientifiques essaient de voir comment une épidémie se propage, ils essaient de voir qui a contacté qui, et ils essaient de voir d'où c'est né. Quel est le lieu d'origine? Bien, évidemment, si dorénavant, on ne peut plus se permettre de nommer le lieu d'où l'on pense que c'est vraisemblablement parti, si on a de la rectitude, on ne nomme plus les affaires et qu'on est dans l'opacité pour justement ne pas blesser, on s'enlève des armes. La science, Sophie, fonctionne à la vérité et à la transparence. Et si au nom de cela, on veut s'interdire de nommer les choses...
C'est un très bon point.
Ben là, évidemment, tu handicapes toi-même ta propre lutte à l'identification de la souche puis de comment elle se transmet.
Ouais. Et d'ailleurs,
il faut nommer le pays X.
Absolument.
C'est pas un jugement porté sur les habitants du pays X. Tu vois, dans ma chronique, par exemple, je parlais du Brésil. Alors, au rythme où vont les choses, bientôt, on ne pourra plus dire que la gestion de la pandémie est une catastrophe au Brésil, parce que certains y verront une stigmatisation, pour prendre le mot à la mode, de tous les Brésiliens, alors qu'en fait, le vrai responsable, il s'appelle Jair Bolsonaro, c'est le président du Brésil, et ça n'a rien à voir avec le peuple brésilien, comme ce qui se passe en Inde n'a rien à voir avec le peuple indien.
Voilà. Mais c'est aussi quand on s'empêche de nommer les choses, ça mène aussi, ça peut mener aussi à un déficit d'empathie. Je t'explique. Ce matin, dans le journal, notre collègue Emmanuelle Latraverse a pondu une excellente chronique dans laquelle elle dit, ben, si on se trouve dans une drôle de situation parce qu'on veut absolument nous-mêmes se vacciner le plus possible dans le pays où on habite, mais pendant ce temps-là, il faut aussi faire preuve de solidarité avec l'Inde, parce que si l'Inde ne jugule pas ce problème-là d'infection où il y a des gens qui meurent à toutes les 5 minutes, eh ben on va se retrouver avec une autre variation du variant indien. Donc si Emmanuel, dans sa chronique de ce matin, ne pouvait pas nommer le variant, ben, je veux dire, elle ne pourrait pas nous alerter à cette solidarité humaine à laquelle on est dû. Parce que si le variant indien continue à muter, ben, demain matin, ça va être un problème chez nous.
Mais bien entendu.
Pour pouvoir sensibiliser à ce variant-là, il faut pouvoir le nommer. Donc, c'est, tout ça est absurde, ridicule, et pour reprendre les mots du petit Robert... insensé. Écoute, quand on parle justement de stigmatisation, t'attires notre attention sur vraiment un cas de deux poids, deux mesures. Quand quelqu'un de la gauche fait un parallèle tout à fait odieux avec les pires heures de l'histoire de l'humanité, on ferme les yeux et on pardonne. Mais quand c'est quelqu'un de droite qui le fait, on sort le fouet et on dénonce. Alors, à quoi tu fais référence dans ta chronique de ce matin?
Ben, en fait, je fais référence à un obscur député conservateur fédéral qui ne gagne pas à être nécessairement plus connu. Je crois que son anonymat est tout à fait mérité. Mais évidemment, Twitter, cette arme qui se retourne contre les gens qui tweetent spontanément, a encore fait une nouvelle victime. Alors évidemment, ce pauvre député, je te dirais, surtout coupable de stupidité, a lâché un tweet dans lequel, évidemment, il comparait les mesures de confinement en Ontario à l'internement des Canadiens d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est évidemment risible et pathétique. Évidemment, on lui est tombé dessus et il s'est excusé. Or, c'est toi-même, Sophie,
oui,
qui, avec moi, il y a à peu près 2-3 semaines, on avait jasé du fait que, lors du congrès du NPD, une motion... Encore une fois, faisant l'équivalent entre l'internement des Canadiens d'origine japonaise et cette fois la loi 21, avait été amenée par des militants du NPD. Évidemment, la direction du NPD a manœuvré pour la retirer, mais Jack Mitzing ne s'est pas excusé, Alexandre Boulris ne s'est pas expliqué, et je n'ai pas vu beaucoup de déchirage de chemise sur ce rapprochement odieux. Ça me donne l'impression, donc, que quand tu te drapes dans la vertu et la morale, tu as une beaucoup plus grande marge de manœuvre pour faire quoi? Pour stigmatiser du monde. Car encore une fois, ici, le message, c'est que si vous appuyez la loi 21 sur la laïcité, vous êtes dans le camp des odieux. Qu'est-ce que c'est ça si c'est pas une stigmatisation? Ah,
absolument.
Mais si c'est fait évidemment au nom du multiculturalisme canadien, là, évidemment, tu as droit à le dire sans te faire taper sur les doigts.
Ouais. Alors, dans la catégorie, justement, deux poids, deux mesures, il y a un journaliste qui a beaucoup la cote du côté anglophone, et même, il se trouve des gens du côté francophone pour le trouver. Ah, il est donc sympathique, c'est Christopher Curtis. Quand la décision est tombée sur la loi 21, là, le jugement Blanchard, il a écrit à propos de la loi 21 que c'était donc la laïcité telle qu'elle est pratiquée au Québec est inspirée de la France. Et donc, et il a fait un lien avec Le Pen en disant que ça datait du père, donc Jean-Marie Le Pen. Alors j'ai été obligée de lui donner une petite leçon d'histoire en lui rappelant que la loi sur la laïcité en France remontait à 1905, et en plus lui l'a qualifié de catho-laïcité, ce qui est complètement ridicule, parce qu'au contraire, en 1905, c'était pour faire une différence entre l'État et les curés, qui à l'époque étaient évidemment des curés catholiques. Il n'y avait pas d'imams beaucoup qui se promenaient dans les rues de Paris. Donc, c'est quand t'es du bon côté de l'histoire, tu peux faire des parallèles entre la loi 21 et Jean-Marie Le Pen. Ça, il y a aucun problème. Mais si quelqu'un avait fait une comparaison de l'autre bord, ben on se serait fait taper sur les doigts. Je veux dire, tous les coups sont permis quand il s'agit de dire que le Québec, c'est une gang de xénophobes.
Mais Sophie, regarde dans notre propre cour. Alexandre Boulris du NPD n'a rien trouvé à dire quand un de ses collègues a applaudi aux propos d'Amir Attaran.
Absolument.
Manon Massé, dont le parti passe son temps à donner des leçons de morale aux autres, tolère dans ses propres rangs une cellule qui s'appelle le Comité
décolonial. Décolonial.
Beaucoup de membres. Voilà, dont beaucoup de membres ont applaudi aux propos d'Amir Attaran. Et évidemment, comment on a justifié ça au nom de la diversité d'opinions? Eh bien, le pauvre député Sweet, conservateur dont je parlais il y a un instant, sa niaiserie, il n'a pas pu la faire passer sous le coup de la diversité d'opinions. Autrement dit, je trouve qu'on a l'indignation à géométrie variable et à morale élastique dans une certaine gauche bien-pensante québécoise et canadienne.
Écoute, si vous voulez vous amuser dans la vie, allez tout de suite sur la page Facebook du Collectif antiraciste décolonial de Québec solidaire et regardez ça. Écoute, c'est rempli de perles. Mais des fois, on a envie de se faire pipi dessus tellement ces gens-là sont... C'est comme une caricature. C'est une caricature. Ils sont absolument hallucinants. Et bien sûr, ils ont le droit de s'exprimer. Je suis tout à fait pour la diversité d'opinion. Mais on peut aussi les lire en se versant un bon verre de chardonnay parce que on en a pour des heures à s'esclaffer. Je veux dire, c'est grotesque.
Oui, oui. Le problème, Sophie, c'est que croisant mon expérience, beaucoup de ces gens-là, quand ils ont terminé de s'amuser à militer au sein de Québec solidaire, ensuite militent à l'école. Beaucoup de ces gens sont dans le milieu de l'enseignement, dans le milieu des services sociaux, et donc on voit que cette idéologie proprement délirante, elle percole maintenant, elle s'infiltre dans le milieu de l'éducation. Toi et moi, il y a quelques jours, avions parlé de certains affichages de postes proprement délirants où l'on dit quels sont dorénavant les critères d'embauche à l'université. Mais il faut voir en dessous de ça les séances de rééducation du personnel pour s'assurer qu'ils pensent correctement, la manière dont certaines œuvres sont supprimées, la manière dont les plans de cours sont réécrits pour justement rentrer dans la tête des jeunes cette nouvelle idéologie accusatrice et culpabilisatrice. Donc, il y a un côté proprement loufoque, absolument, mais qui devient nettement moins loufoque quand tu te dis qu'est-ce que ça va donner une génération d'écoliers auxquels on aura lavé le cerveau avec ces sornettes-là pendant des années?
Oui. Ben écoute, ça fait plusieurs fois que je te le dis, hein? Je sais pas mon fils quand il va aller à l'université, où il va aller. C'est seulement dans 5 ans, puis déjà j'en ai des sueurs froides.
Écoute, à mon humble avis, il y a deux hypothèses.
Oui, rapidement, parce que on est déjà arrivé à la fin de ta chronique, mais vas-y, je te donne une minute de plus.
OK. Ne me demande pas laquelle des deux est la vraie. L'hypothèse optimiste, c'est que c'est une espèce de mode passagère, on va la traverser. L'hypothèse pessimiste, c'est que si une majorité de jeunes de 20 ans aujourd'hui pensent comme ça, eh bien, dans 20 ans, ils seront aux commandes de la société. Et c'est ce récit-là qui deviendra le récit dominant de notre histoire, de ce que nous sommes. Et si c'est toute une société qui apprend à se voir ainsi, ben ça annonce un avenir assez sombre pour tous ceux qui aiment vraiment la liberté d'expression.
Oui. Écoute, Joseph, toujours intéressant de te parler, donc j'encourage tout le monde à aller lire ta chronique de ce matin et celle de samedi, c'est ça? Merci beaucoup. Et puis, on se revoit. Écoute, toi et moi, on est ensemble 2 fois par semaine. C'est vraiment, je suis la femme, l'animatrice la plus gâtée au Québec. On se reparle jeudi. Merci, Joseph.
Merci, au revoir.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici.
Très loin là-bas.
Ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Maman, c'est toi la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie.
Ah, quand Luis Mariano chante la beauté de sa maman. Il y a plein de chansons sur les mamans, il y a des chansons sur les papas, mais pourquoi il n'y a pas de chansons sur les belles-mères? Pourquoi il n'y a pas de chansons sur les beaux-pères? On va parler de tout ça avec Valérie Roberts, qui est animatrice, qui est auteure, qui est elle-même belle-mère. Bonjour Valérie!
Salut Sophie!
Écoute Valérie, tu as écrit il y a quelque temps un livre où tu recueillais le témoignage de 19 belles-mères. J'en faisais partie et après avoir écrit ce livre-là, tu as eu l'idée de lancer une journée des beaux-parents. Pourquoi Valérie?
Ben c'est que suite à l'apparition du livre l'été dernier, j'ai eu je sais pas combien de messages, ça pourrait se calculer par milliers assurément.
Ah oui?
Des témoignages, ah oui, vraiment. Des témoignages autant des belles-mères que des beaux-pères. Tu vois, le livre était principalement sur les belles-mères, mais je pense que ça fait réagir aussi les beaux-pères, donc les beaux-parents en général. Puis à chaque fois dans les messages, c'était des témoignages de leur situation à eux ou encore qui se sont reconnus à travers les pages du livre. Mais surtout, ce qui me frappait le plus, c'était des gens qui disaient « Hey, merci d'avoir parlé de nous. Merci de nous avoir permis de nous reconnaître. Merci d'avoir permis de parler de la belle parentalité, qui en passant est un mot qui n'existe pas, là, mais que j'essaie de faire en sorte qu'il existe. Mais bref, mais merci de faire en sorte qu'on puisse se reconnaître à quelque part. Puis à chaque fois que je lisais ça, je me disais, OK, ça veut dire que je ne suis pas la seule personne. Je suis pas folle en imaginant que, tabarouette, comment ça qu'on ne parle pas des familles recomposées quand c'est une famille sur 6, bientôt une famille sur 5 qui sont des familles recomposées? Pourquoi est-ce qu'on parle pas de cette idée des beaux-parents puis de la belle parentalité puis de ce que ça représente? Puis je regardais aussi mes belles-filles à moi qui, à la fête des mères, me donnaient une petite carte, mais sans trop m'en parler pour pas se sentir déloyale par rapport à leur maman, parce qu'ils voulaient me souligner, mais en même temps, c'est pas la fête des belles-mères, c'est la fête des mères. Mm-hmm. Fait que tout ça a fait en sorte que je me suis dit, bon, mais peut-être qu'il y a lieu de créer une journée qui appartient uniquement aux beaux-parents. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai communiqué avec Monsieur Mathieu Lacombe, donc ministre de la Famille. J'ai communiqué avec le gouvernement du Québec. J'ai communiqué avec un réseau, avec le réseau pour un Québec Famille. Puis on a mis sur pied la journée nationale des beaux-parents qui va avoir lieu dorénavant, donc tous les troisièmes dimanches de mai. Donc cette année, pour la première fois, le 16 mai.
Écoute, moi, je suis très impressionnée par ta démarche, Valérie. Bon, quand on s'est rencontrés pour le livre, j'étais très impressionnée par ta détermination et ton enthousiasme à donner une visibilité puis une reconnaissance aux beaux-parents. Mais que t'aies poussé ça plus loin jusqu'à prendre le téléphone pour appeler le ministre de la Famille, je trouve que t'as du front tout le tour de la tête. Raconte-nous un peu les premières réactions. Est-ce que tout de suite, le ministre Lacombe, les gens au gouvernement ont dit « Oui, 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 Valérie, on va le faire, c'est une bonne idée », ou il y a eu des réticences? Raconte-nous comment ça s'est passé.
Il faut que je te dise, Sophie, en toute transparence, je ne pensais jamais faire quoi que ce soit avec un ministère ou avec un ministre. J'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Tu sais, je veux dire, je suis une citoyenne tout simplement. Fait que là, de me dire, OK, donc, est-ce qu'on doit parler avec le département des communications du ministère ou avec les attachés de presse ou comment ça fonctionne, cette grande institution? Fait que j'ai commencé par tout simplement envoyer mes livres. Fait qu'une copie de mon livre avec une lettre au ministre de la Famille, à la sous-ministre de la Famille, en leur disant, je pense qu'il y a lieu de discuter et de parler de ce qu'on pourrait faire par rapport aux familles recomposées. Il me semble qu'on n'en parle pas suffisamment. en tout cas par expérience, par suite aux témoignages que je reçois, j'ai comme l'impression qu'il pourrait y avoir quelque chose là. Puis je te dirais que ça a pas été super compliqué, dans le sens où c'est quand même le gouvernement, là, tu sais, fait que c'est pas, c'est de la bureaucratie, fait que ça a pas été super simple non plus, mais j'ai senti qu'il y avait vraiment une grande réception puis une écoute de la part du gouvernement. Je sentais aussi, j'ai parlé aussi avec Monsieur Jolin Barrette, donc Simon Jolin Barrette,
ah, oui?
de la Justice, mais qui est aussi ministre du français, tu sais, parce que je trouvais ça inacceptable qu'on puisse pas avoir le mot « belle parentalité ». Comment c'est que parentalité existe, que homoparentalité existe, coparentalité, mais pas belle parentalité, et pourtant c'est un reflet de ce qu'on vit actuellement. Puis aussi, comment ça que belle-mère puis beau-père, c'est la journée des beaux-parents, je dois toujours le préciser que c'est pas la mère de mon conjoint, mais
c'est
bel et bien ma situation à moi, fait que de conjointe d'un homme qui a des enfants, tu sais. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un autre mot en anglais? Il y a deux mots qui sont séparés.
Stepmother puis mother-in-law. Ouais, c'est
exactement.
Ça. C'est vrai que j'ai toujours trouvé, puis même en espagnol aussi, ces deux mots séparés. Donc,
exact.
C'est vraiment très agaçant qu'en français, on n'ait pas cette différence-là, cette distanciation-là.
Ouais.
Écoute,
non seulement c'est agaçant, mais en plus, ça aide pas à se sentir reconnu, puis à
ben
sentir
oui.
que ce qu'on fait peut être important au sein de nos familles, tu sais.
Oui, parce que dans le fond, c'est ça, c'est pas l'idée d'avoir une journée pour recevoir des petits colliers en macaroni, là, c'est pas ça l'idée,
oui,
c'est que si on les nomme, si on nomme les choses, ça veut dire qu'on les reconnaît. Et reconnaître, ça a deux sens, ça veut dire reconnaître l'existence d'eux, mais c'est aussi avoir une forme de reconnaissance, ça veut dire qu'on reconnaît le rôle qui est joué. Mais je veux quand même parler des cadeaux, OK? Parce que la fête des mères, la fête des mères s'en vient bientôt. Et moi, il y a quelque chose qui me tape sur les nerfs avec justement la fête des mères, c'est tout le côté commercial. Tu sais, c'est comme il n'y a pas un restaurant, il n'y a pas un fleuriste, il n'y a pas une pharmacie, il n'y a pas une... Tu sais, c'est tout le monde veut nous vendre des bébelles pour la fête des mères. Est-ce que tu n'as pas peur... Je pose une question, c'est l'avocat du diable, là. T'as pas peur que justement, en instaurant cette journée-là des beaux-parents, qu'on fasse juste créer une autre occasion commerciale?
Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais j'ai l'impression que avant même de pouvoir parler d'une fête commerciale, il faudrait commencer par parler de cette fête-là en particulier, puis de cette journée-là en particulier, tu sais. Moi, pour l'instant, en tout cas, ce que j'ai reçu comme message suite à cette annonce-là, c'est des témoignages de belles-mères qui m'ont dit « Oh mon Dieu, je pleure. Ça fait des années que j'attends cette journée-là. » Des beaux-pères qui me disent « Hey, moi là, je suis tellement impliquée dans la vie de ma belle-fille, puis juste que cette journée-là, elle soit capable, sans se sentir mal par rapport à son père biologique, juste de me dire « Hey, merci Marc-André pour tout ce que tu fais pour moi. Je suis tellement contente, j'apprécie. » Fait que si ça se transforme en fête commerciale, ça va vouloir dire que ça fait plusieurs années qu'on est en train de célébrer la journée des beaux-parents. Ça va vouloir dire que les beaux-parents sont reconnus. Fait que rendu là, peut-être que je pourrais y aller sur l'aspect commercial. Mais tu sais, pour l'instant, je suis vraiment juste dans cette espèce de quête de reconnaissance, comme tu l'as dit, puis de juste être capable de que les enfants ne se sentent pas mal s'ils veulent dire à leurs beaux-parents qu'ils les aiment, puis qu'on veut faire un petit souper spécial cette soirée-là parce que ta barouette t'implique auprès de tes belles-filles, puis merci pour ce que t'as fait. Tu sais, je me rappelle quand j'ai écrit le livre, qu'on a discuté toi et moi ensemble de ta vie de belle-mère, tu me disais, tu sais, moi juste que les filles me parlent d'un souvenir que nous avons ensemble. Puis ils me disent, hey, je me rappelle de ce voyage dans le sud-là, ça a été marquant pour moi. Juste ça, des fois, c'est comme une étincelle, tu sais, c'est de dire, oh mon Dieu, OK. Fait que j'ai eu un impact véritable. Toutes les fois où j'ai trouvé ça difficile, ma vie de belle-mère, OK, ben ça en a valu la peine, tu sais. Je pense que pour les parents, la gratitude, souvent, elle va être plus présente. Les beaux-parents, on a tendance à les oublier peut-être. Puis moi, j'ai réellement perçu qu'il y avait un intérêt dans la vie des familles recomposées, tellement une réalité qui est intense à vivre, qui vient avec des très grands hauts, mais avec des très grands bas, que si on est capable de juste souligner cet apport-là, puis aussi de la reconnaissance, mais d'enlever le tabou. Tu sais, je trouve que c'est encore très tabou de parler des familles recomposées, de l'aliénation parentale, du rôle qu'un beau-parent peut avoir.
C'est vrai.
Et on dirait que je comprends pas pourquoi c'est autant tabou. Fait, en créant cette journée-là, en célébrant les beaux-parents, ben ça aide aussi à démystifier un peu les familles recomposées. Bien que ce soit très commun, on en parle très peu.
Oui. Écoute, depuis que tu as fait ce livre, il y a quand même un gros changement dans ta vie, c'est que tu es maintenant avec une belle bedaine. Donc, ça veut dire que les prochaines années, alors que tu n'avais ni la fête des mères, ni la fête des belles-mères, les prochaines années, tu t'assures que tu vas te faire fêter au moins deux fois par année. Je t'avoue, t'es wise quand même, t'es bonne, bravo Valérie Roberts. Écoute,
c'est assez intelligente, j'ai pensé à ça, je me suis dit que j'en voulais deux à la place que...
Ben oui, c'est ça, amenez-en des fleurs.
Ouais, exact, mais c'est vrai, parce que c'est drôle parce que c'est mes belles-filles justement qui me disaient ça. Ah, c'est génial que t'as créé la journée des beaux-parents, mais là, cette année, pour la première fois, tu vas aussi avoir la fête des mères, puis on dirait que ça m'a comme saisi. Je dis, oh mon Dieu, c'est vrai, je vais devenir une mère. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je suis habituée d'être une belle-mère maintenant, mais pas une maman, tu sais, fait que ça va être un autre rôle que je vais apprendre. Ça va être une autre réalité que je vais apprendre, mais je trouve ça magnifique. Tu sais, je reviens à mes belles-filles, mais je trouve ça extraordinaire de partager ça avec elles. Elles sont grandes, elles ont 8 ans et 11 ans. On en parle, tu sais, à chaque fois qu'elles sont à la maison avec nous autres, c'est de ça qu'on va parler. Puis, est-ce que tu penses, Valérie, qu'on va pouvoir la prendre? Puis, est-ce que tu penses qu'on va pouvoir choisir qu'est-ce qu'elle va porter? Puis, oh, dans la piscine cet été, est-ce qu'elle va pouvoir se baigner avec nous, tu crois? Mais, tu sais, je me trouve choyée d'amener ça à ma belle famille recomposée, tu sais, cette idée que maintenant, il y a un nouveau membre de la famille qui va porter le même nom de famille que ses sœurs, puis qui va être ses sœurs, puis qui va être leur sœur, puis qui va être un autre maillon de notre famille, tu sais, d'une autre réalité. Je pense que ça va vraiment être une belle expérience.
Oui. Écoute, dans ton livre, je me souviens plus qui, mais il y a une des filles que t'as interviewée qui disait à propos de ses belles-filles, je serai jamais leur mère, mais elles seront toujours mes filles. Peut-être que je le dis pas comme il faut là, mais je trouve que c'est tellement ça la beauté de cette relation-là qui ressemble à aucune autre, hein, parce que tu peux pas comparer, mettons, à quelqu'un qui est un parent adoptant. C'est vraiment très, très, très particulier, cette relation-là qu'on a avec nos beaux enfants. Écoute, je disais tout à l'heure que je voulais pas que ça devienne, que je trouverais ça plate, ça devenait une fête commerciale. Mais si jamais mes deux belles-filles m'écoutent, donc Catherine et Elisabeth, si vous voulez m'envoyer des fleurs, m'envoyer des coupons pour aller manger dans des bons restaurants de Martin Junot, si vous voulez, il y a aucun problème, les filles, hein. Je veux juste fermer la parenthèse ici, là.
Tout à coup, ceci, le côté commercial,
oui,
s'il te plaît.
Ça me dérange moins, tout d'un coup, là. C'est comme, emmenez-en.
Pensé, finalement.
Mais moi, j'aime beaucoup les chocolats avec... non, OK.
mais t'as raison de le souligner, tu sais, parce que moi, je dis toujours ça à la blague, mais c'est vrai. Moi, je regardais les bricolages que mes belles-filles ont fait pendant les 6 dernières années pour leur papa puis pour leur maman, puis l'amour qu'elles mettent là-dedans, puis... Tu sais, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Fait que, genre, on le fait évidemment pas pour le côté commercial, tout comme les artistes qui gagnent un prix à la télé disent qu'ils font pas de la télé pour gagner un prix, tu sais. Sauf que quand t'as un collier en macaroni que tes belles-filles t'ont fait entre les mains, ou que tes beaux-fils t'ont fait, ou que peu importe dans ta famille recomposée, quelqu'un t'a fait parce qu'il a pensé à toi, ou qu'il a acheté un petit bouquet de fleurs, ou qu'il a cueilli des fleurs sur le terrain du voisin, chose que je recommande pas nécessairement, mais gars,
non,
c'est des enfants,
fait
que c'est correct.
Ouais.
Mais tu sais, tout ça, je pense que ça fait juste un petit velours dans la situation d'être un beau parent. Puis faut pas sous-estimer l'importance de cette relation-là. Faut pas sous-estimer ce que ça peut faire. Tu sais, moi, quand je suis tombée enceinte, mes belles-filles me disaient, Valérie, là, maintenant tu vas avoir une fille, qu'est-ce que tu vas dire, que tu as un enfant ou trois enfants?
Bonne question.
C'est très important pour elles que je leur dise, non, vous, tu sais, j'ai toujours dit que vous étiez mes filles parce que quand je vous ai rencontrées, vous êtes devenues tellement importantes dans ma vie puis dans mon cœur que je sais très bien que je suis pas votre mère puis ni votre père, mais je vais toujours dire que vous êtes mes filles quand même. Fait que dorénavant, les filles, inquiétez-vous pas, je vais dire que j'ai trois enfants, tu sais. Puis les filles, ils m'ont pris dans leurs bras puis elles étaient contentes. Fait que je pense qu'il faut pas sous-estimer les liens très forts et uniques qu'on peut créer entre un enfant puis un beau-parent. Je pense que ça peut être vraiment significatif et marquant pour tout le monde, tu sais.
Ben tout à fait. Puis écoute, t'es tellement une bonne ambassadrice pour ce dossier-là. Écoute, je pense, pour résumer, de toute façon, la seule chose qu'on demande, en fait, la seule chose qu'on espère et qu'on souhaite, c'est que le 16 mai, des gens qu'on a élevés, on a ramassé leur vomi quand ils étaient malades, on a pris leur température quand ils faisaient de la fièvre, on a mis des pansements quand ils avaient des bobos. On veut juste un petit merci, une fois dans l'année, donc c'est, je pense que c'est un petit peu ça le message. Ben écoute, bravo Valérie, vraiment, honnêtement, merci. Tu m'impressionnes, donc Valérie Roberts, t'as réussi à convaincre le gouvernement du Québec d'instituer, donc, non mais c'est pas rien, écoute, tu mettras ça dans ton CV, là.
T'as raison.
Écoute, t'as toutes les raisons de te taper dans le dos, ma belle. Alors donc, le dimanche 16 mai prochain, ça va être donc la journée nationale des beaux-parents. Alors, envahissez les fleuristes, les magasins de chocolat, et tout ça. Ou alors allez dans la section des pâtes pour confectionner des petits colliers de macaroni. On est prenant pour tout, les cartes de souhait. Tu sais que dans les cartes de souhait aussi, il va falloir que les compagnies comme Hallmark et tout ça débordent d'imagination pour trouver des façons de remercier les beaux-parents, parce qu'avec cette nouvelle journée-là, va falloir s'adapter.
Ce sera mon prochain mandat, Sophie. Je prends le numéro de téléphone de chez Hallmark, puis j'appelle, je vais les harceler.
Tu me fais rire. Écoute, merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui.
Ben merci à toi pour m'avoir reçu, c'est vraiment apprécié.
Ça fait plaisir. Valérie Roberts, donc, elle est animatrice, elle est auteure et elle est belle-mère. Elle est bientôt aussi, elle va être maman. Ben, elle est déjà maman parce qu'elle a un bébé dans son ventre, mais le bébé n'est pas encore arrivé, là. Le bébé n'est pas sorti du four encore. Et donc, elle a réussi à convaincre rien de moins que le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, d'avoir donc cette première journée nationale des beaux-parents. Ça va être le 16 mai.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Si vous avez envie de vous faire du mal, allez regarder sur le compte des gens qui sont en ce moment en Floride. Vous allez voir des gens qui font le party, des gens qui mangent à la terrasse des restaurants. Vraiment, la situation en Floride a l'air idyllique en ce moment, parce qu'il faut dire que le taux de vaccination est quand même assez élevé aux États-Unis. Alors, pour parler de tout ça, j'ai au bout de la ligne Christian Fauché, qui est narrateur résident en Floride et que vous connaissez bien, bien sûr, puisqu'il est collaborateur régulier à TVA Nouvelles. Monsieur Fauché, bonjour.
Bonjour, Sophie.
Bon, juste pour nous rendre jaloux, là, dites-nous donc d'abord quel temps il fait en ce moment en Floride.
Ben, nous, on est dans la période où l'été s'en vient pas mal. On approche les 30-33 degrés à chaque jour avec un haut taux d'humidité.
Bon, OK, parce que hier, il faisait 2 à Montréal, puis la semaine dernière, il y avait de la neige. Donc, juste pour bien nous situer, là, que déjà, vous êtes chanceux parce qu'il fait super beau là-bas. Mais on a l'impression, moi, ouais. Je vois passer plein d'images de la Floride. J'ai une amie qui vient d'arriver en Floride, qui est allée bruncher à une terrasse sans aucun problème. Est-ce que la situation est aussi idyllique qu'on l'imagine en ce moment en Floride?
Oui, parce que on jurait, quand j'entends, je regarde ce qui se passe au Québec, qu'on vit sur deux planètes différentes. Nous, ici, je vous rappellerai que c'est vers la fin septembre que le gouverneur annonçait qu'à partir de maintenant, on entrait dans la phase 3 des réouvertures et on réouvrait les restaurants finalement à pleine capacité à partir de la fin septembre de l'an dernier. Alors, vous imaginez un peu, on a bien avancé depuis ce temps-là. Tout est ouvert. La seule chose, c'est que lorsqu'on se promène à l'intérieur, on doit porter un masque. Mais lorsque vous arrivez à votre table, vous l'enlevez et puis la vie continue.
Oui. Alors, on sait qu'il y a beaucoup, évidemment, de gens du Québec qui sont ce qu'on appelle des snowbirds. Il y en a beaucoup qui reviennent, mais en même temps, ils sont pas tous revenus. Il y en a beaucoup qui restent en Floride. Quel pourcentage, vous diriez, des gens qui étaient sur place en Floride se sont fait vacciner pendant qu'ils étaient aux États-Unis?
Ah, je vous dirais que ceux qui avaient la possibilité de le faire, c'est-à-dire si vous étiez dans le groupe d'âge et si vous aviez une preuve que vous déteniez une résidence ici en Floride, ils sont tous allés se faire vacciner. C'était tellement facile, c'était rapide. Écoutez, on reste dans notre voiture, on fait la file un peu à la queue leu-leu pendant environ une demi-heure dans la voiture et par la suite, on ouvre la portière, il nous pique et merci, on est parti 15 minutes plus tard avec une date pour revenir dans 3 semaines exactement pour avoir la deuxième dose. Et présentement, les gens qui ont eu la deuxième dose ici en Floride, on parle de 6 millions de personnes, donc c'est à peu près un peu plus que le quart de la population de la Floride qui a déjà eu ces deux doses de vaccin.
Alors ça, c'est énorme, puis c'est très important que vous mentionniez la notion de la deuxième dose, parce que vous nous dites, en Floride, c'est 3 semaines plus tard. Ici, au Québec, on sait que c'est 4 mois, jusqu'à 4 mois plus tard. Donc, au Québec, on parle de, bon, près de 30% des gens qui ont été vaccinés, mais on parle simplement de la première dose. Alors, tu sais, par exemple, moi, je me suis fait vacciner il y a 2 semaines, mais je retourne le 29 juillet pour ma deuxième dose. Donc, c'est là qu'on voit qu'en Floride, vous êtes vraiment, vraiment beaucoup plus avancé que nous au Québec.
Ben, je pense que c'est à cause de la disponibilité des vaccins. Nous, on a beaucoup de vaccins. Je veux pas que les gens soient jaloux non plus, mais pour vous donner une idée, même si ici, dans le comté de Broward, la région de Fort Lauderdale, on a décidé qu'on allait simplement utiliser le vaccin de Pfizer. Alors, toutes les personnes qui sont faites vacciner dans la région de Fort Lauderdale ont reçu le vaccin Pfizer. Et juste en restreignant ça à un vaccin, on est quand même capable de vacciner tout le monde. Et là, on est ouvert aux 16 ans et plus. Donc, si vous avez 16 ans et plus et que vous êtes résident de la Floride, vous pouvez aller vous faire vacciner.
Ah oui, 16 ans et plus. OK, moi, je prends le premier avion, là, puis je m'en vais. Je m'en vais en Floride.
Bonne nouvelle, Sophie.
Oui.
Vous ne serez pas obligé de rester 3 jours à l'hôtel lorsque vous arrivez ici. Il n'y aura pas de quarantaine non plus. Ça, c'est une chose qui est importante à savoir parce que, évidemment, moi, je devais aller au Québec. Mais oui. Malheureusement, j'ai pas le temps de passer 3 jours à l'hôtel, 14 jours dans une maison seule ou quelque chose comme ça. Donc, à cause de la quarantaine, j'ai mis ça sur la glace un peu. Mais les gens qui s'en viennent ici en Floride, il n'y a pas de quarantaine, il n'y a pas d'hôtel. Vous débarquez de l'avion, vous vous en allez chez vous, prenez le taxi ou louez une voiture. C'est la liberté totale.
Et pas de couvre-feu. Bon, voilà, ça, c'est aussi un autre élément important. En même temps, je parlais avec une de mes amies, donc, qui vient d'arriver en Floride, et elle me disait, bon, c'est formidable, on est vraiment un sentiment de liberté. Et ce qu'elle me disait, c'est essentiellement, après tous ces mois de confinement au Québec, j'ai l'impression qu'il y a une tonne de briques qui m'a été enlevée des épaules. Mais elle disait, par contre, moi, je mettrais pas les pieds à Miami parce qu'à Miami, c'est trop, excusez-moi l'expression, c'est trop le free for all. Il y a trop de jeunes qui tiennent pas compte des consignes, qui sont pas vaccinés, qui font le party. Est-ce que vraiment Miami est comme une ville à part en Floride?
Oui, parce qu'on l'a vu, on a vu ces images durant le spring break, comment les artères très achalandées de Miami ont été pris d'assaut par les étudiants qui viennent d'un peu partout, majoritairement des États du Nord. Mais suite à ça, écoutez, on s'attendait à ce qu'il y ait une nouvelle vague aux États-Unis oui. À cause de ce qui s'est passé à Miami, mais cette vague n'est jamais venue. Donc, est-ce que les... Écoutez, quand on regarde les cas ici en Floride, il y a quand même seulement 10% de la population qui a été infectée par le virus. Donc, c'est pas tant que ça. Il y a 2 millions de cas ou 2,2 millions de cas sur 22 millions de population. Donc, peut-être que le virus, chez les jeunes, se propage pas autant que... Mais là, je suis pas médecin, mais je veux pas m'avancer oui. Là-dessus. Mais c'est peut-être une des raisons pour laquelle il n'y a pas eu l'éclosion qu'on pensait avoir après le spring break.
Oui. Alors, ce que vous nous dites, c'est donc les 16 ans et plus peuvent se faire vacciner n'importe quand. En plus, c'est des Pfizer. En plus, il n'y a pas le couvre-feu. En plus, tous les commerces sont ouverts. Vous avez une vie tout à fait normale?
Presque. Je vous dirais qu'il y a simplement...
C'est quoi la différence?
Mes enfants vont à l'école. Ben, mes oui. enfants vont à l'école, il faut porter le masque. On rentre dans un magasin, il faut porter le masque. Donc, il y a seulement le port du masque. Alors, si vous voulez savoir la différence entre la Floride et le Québec, ben prenez tout ce que vous avez comme restriction au Québec et gardez seulement le masque, et ça, c'est la Floride.
Incroyable. Parlez-nous un petit peu, Monsieur Fauché, de l'atmosphère justement qui règne là-bas. Parce que bon, nous ici au Québec, évidemment, on se croise les doigts parce qu'on a comme l'impression qu'on a un petit peu échappé de justesse là, vraiment par la peau des dents à la troisième vague. Mais on a juste à se tourner la tête un petit peu, puis on voit ce qui se passe en Ontario et on capote parce que eux, ils ont besoin de l'aide de l'armée et de la Croix-Rouge. Leurs hôpitaux sont complètement débordés. Le premier ministre ministre de la province est parti à pleurer l'autre jour en conférence de presse parce qu'il était complètement découragé de la situation. Donc c'est quand on se compare, on se console. Mais l'atmosphère, elle est comment en Floride? Est-ce que les gens sont vraiment conscients du privilège et de la situation exceptionnelle dans laquelle ils se trouvent?
Quand on prend le temps de regarder ce qui se fait ailleurs, oui, mais dans le déroulement de la journée, pas tant que ça, parce qu'on a l'impression de revenir à ce qui devrait être normal. C'est plutôt quand on regarde ailleurs et on se dit, mon Dieu, ils sont pas chanceux, c'est pas normal. Mais nous, je dirais que l'esprit va bien dans le sens que il y a eu une vague au mois de décembre, janvier, où il y a eu plus de décès, mais depuis, c'est vraiment à la baisse et drastiquement. L'autre vague qu'on avait eue, c'était au mois de juillet. Mais présentement, ça se passe bien, c'est sous contrôle, il n'y a pas beaucoup d'hospitalisation. Et on a un chien de garde qui nous aide à nous motiver positivement en sachant qu'il n'y en aura plus de restrictions. C'est notre gouverneur qui, lui, a décidé que c'était fini, les fermetures, quoi qu'il advienne. Et la première chose qu'il avait fait, c'était de s'occuper de garantir que les gens du troisième âge étaient protégés. Donc, on s'est occupé des gens du troisième âge au début de la crise. Et depuis ce temps-là, les décès, ça dégringole, ça chute, il n'y en a presque plus. Et on se sent en sécurité. Et on sait qu'on retournera pas en arrière. Donc, les gens voient du positif en avant. L'économie va bien. Écoutez, on se voit entre amis. On se reçoit à souper entre amis. Ma fille adolescente, ses amis viennent coucher à la maison et vice-versa. Donc, on a une vie normale d'avant COVID. Comme je vous dis, la seule chose, C'est le masque lorsqu'on est à l'intérieur en public.
Mais c'est très intéressant ce que vous nous dites, Monsieur Fauché, c'est que donc le gouverneur de l'État de Floride qui dit peu importe si jamais il y a mettons une quatrième vague, on ne retournera pas à la mesure du confinement. Donc il est anti-confinement d'une certaine façon. Est-ce que je me trompe?
Non, vous ne trompez pas du tout. Il est anti-confinement. D'ailleurs, on regarde les chiffres des États qui ont confiné, ceux qui n'ont pas confiné, on se dit, ben, ça donne quoi de confiner? Parce que on se compare avec New York, le New Jersey, avec également la Californie, qui ont été des États très sévères, très stricts, et qui le sont encore, d'ailleurs. Et même qu'au Michigan, présentement, c'est quasiment hors de contrôle. Et là, on a décidé qu'à partir des enfants de 2 ans doivent porter le masque. Et donc, c'est rendu fou, comme ça se peut pas. Et nous, ici, on reprend une vie normale et les cas descendent, les hospitalisations descendent, les morts descendent. Donc, il y en a presque plus de problèmes, c'est ce qu'on se dit. Et on se tient prêt, par contre, du côté du gouvernement de la Floride, on est prêt à faire face à la prochaine vague parce qu'on s'est occupé de s'organiser du côté des hôpitaux. Et c'est ça qui a été important, organiser les soins hospitaliers en cas d'une quatrième vague pour ne pas justement qu'on soit obligé de refermer la Floride.
Mais ça, c'est très intéressant aussi parce que vous nous avez dit tout à l'heure que pour le gouverneur, la priorité, c'était de dire, bon, on a une population qui est fragile, qui est vulnérable, qui est à risque, ce sont les personnes âgées, protégeons-les en priorité et une fois que ça se sera fait, on va pouvoir lever les restrictions. Donc, est-ce que ça devrait pas être nous aussi notre priorité au Québec de se dire, bon, ben une fois qu'on a protégé les plus vulnérables, les personnes âgées, on peut-tu, s'il vous plaît, respirer un peu? Donc, il y a des chances que aussi, il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent, ben, si ça a marché en Floride, pourquoi on fait pas la même chose au Québec?
Ouais, sauf que de ce que j'en entends, de ce que je comprends du Québec, c'est qu'on manque de personnel dans les soins de la santé. Nous, ici, c'est pas tout à fait ça, parce que les soins de la santé, c'est privé. Donc, il y a dû y avoir des réunions entre les majeures compagnies qui appartiennent ces hôpitaux-là ici en Floride et le gouvernement de la Floride pour orchestrer justement qu'est-ce qu'on devrait faire pour la prochaine vague. Quand on a les ressources comme on a ici en Floride, c'est peut-être plus facile que lorsqu'on manque de ressources comme au Québec, vu que vous avez été affecté énormément parmi les personnes qui s'occupent des soins hospitaliers.
Oui, non, c'est sûr qu'il faut pas. C'est toujours très compliqué de jouer au jeu des comparaisons. Puis c'est pas évidemment, ce sont deux pays, deux États complètement différents. Mais c'est vrai que ça fait rêver. Écoutez, moi, vous m'avez quasiment tiré des larmes aux yeux quand vous dites on peut se recevoir entre amis. Donc même pas besoin nécessairement de savoir si tout le monde autour de la table est vacciné. Donc vous avez le droit de toute façon de vous réunir même à l'intérieur.
Oui, Oui, il n'y a pas de nombre limite ou quoi que ce soit. C'est, écoutez, j'ai des amis qui on parle, j'ai des amis au Québec et tout ça. Et d'ailleurs, il y a un de mes amis qui est arrivé ici, qui était, et on est allé souper vendredi soir. Par la suite, on est allé sur la terrasse d'un bar pour aller voir le UFC et tout ça. Puis il me regardait, il disait, j'en reviens pas. J'ai l'impression que j'arrive de la Russie, comparativement à ce que vous vivez ici.
Oui, je vois tout à fait. Il avait l'impression de sortir d'un goulag.
Oui, effectivement.
Mais j'espère que vous êtes conscient de votre chance, puis j'espère que vous êtes conscient aussi qu'après cette entrevue, M. Fauché, il y a pas mal de monde qui vont vouloir se prendre un billet d'avion et aller en Floride. D'ailleurs, j'imagine que le tourisme aussi, vu que tout est ouvert, vu que, bon, la seule restriction, c'est celle du masque, puis bon, on est vraiment capable de vivre avec, le tourisme doit avoir repris de belles façons aussi en Floride, alors.
Oui, effectivement. D'ailleurs, tous les parcs de Orlando sont ouverts. Les hôtels sont ouverts à pleine capacité et ça roule comme si de rien n'était. Mais je vous écoute me parler et me dire, j'espère que vous prenez conscience que vous êtes chanceux de pouvoir vivre comme ça, mais en fait, mon raisonnement, c'est pourquoi devons-nous nous sentir chanceux de vivre la vie qu'on doit vivre? C'est normal. C'est la normalité. C'est, j'ai envie de vous dire, c'est moi qui vis ce qui est normal. C'est vous, au Québec, qui malheureusement ne vivez pas dans ce qui devrait être la vie normale, les libertés et tout ça. C'est le tableau que j'en dresse.
Très intéressant. Très, très, très intéressante réflexion. Merci beaucoup, M. Fauché, d'avoir pris le temps aujourd'hui entre deux grillades au soleil. Moi, quoi que je sais que vous travaillez très fort aussi, vous avez votre studio de narration, mais très, très gentil de votre part d'avoir pris du temps pour venir nous faire une petite jazzette. Donc, Christian Fauché, qui est narrateur résident en Floride, collaborateur à TVA Nouvelles, donc qui nous donnait les dernières infos en provenance du Sunshine State. Merci beaucoup, Monsieur Fauché.
Plaisir, Sophie. À la prochaine.
Bon, ben, faut que je vous laisse, là. Faut que j'aille réserver mon billet d'avion pour partir à Miami. Vous préviendrez, Richard, que je suis partie. S'il rentre à la maison tout à l'heure et qu'il se demande où je suis rendue. Non, non, c'est une blague, mesdames et messieurs. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Roy, fidèle au poste comme réalisateur, metteur en ondes. Merci aussi à William Boivin à la recherche. Et je vous dis, comme on dit en Floride, goodbye. See you tomorrow.
Cube Radio.